la grande table avance avec l'été et les créations qui le parsèment. À 13h50, François Sureau se rendra 202 boulevard Saint-Germain pour rendre hommage à l'homme de sa vie, Guillaume Apollinaire. Mais avant cela, nous allons parler du cinéma et de la conservation de ses bobines. Mémoire figée dans le dangereux nitrate, une bombe à retardement à l'origine d'incendies mortels. Bombe aussi pour le cinéma qu'il renferme, tenu dans une insécurité permanente. Lors de travaux, en 1978, dans la ville canadienne de Downson, on a vu des pelleteuses déterrer des bobines conservées dans la terre gelée. Des archives que Bill Morrison a su recomposer, complétant le récit des chercheurs d'or, le rendant au cinéma dans un film qui sort demain en salle. Sur la route du nitrate, d'autres pionniers, cinéastes de la mémoire de leur art, le sauveur de bobines Claudio Pazienza et les archipels nitrate qu'il a exhumés de la Cinémathèque de Bruxelles. Bill Morrison et Claudio Pazienza sont les invités de la grande table d'été. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été, Maëlys Besserie.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bill Morrison, vous êtes traduit par les soins de Robert Wolfenstein. Bonjour.
Hello, how are you? Bonjour.
Merci. Dans ce film Downson City, le temps suspendu, vous revenez sur une histoire. C'est une histoire dans l'histoire du cinéma puisque des bobines ont été retrouvées en 1978 dans la terre gelée de cette ville du Canada. Et ça a été l'occasion pour vous de faire un film à partir d'autres films. Racontez-nous cette histoire.
Oui, alors le point de départ, c'est qu'en 1978, on était en train de reconstruire un petit peu dans cette ville de Downson. Et pendant les travaux, on est tombé effectivement sur ces vieilles bobines qui remontaient aux années 20. Et la raison pour laquelle la ville de Downson détenait ces films, enfin ces vieilles bobines depuis longtemps, c'est que à l'époque de la rue et vers l'or, ça a commencé donc en 1898, les films, parce qu'on s'ennuyait là-bas, étaient très importants pour passer l'hiver. Donc ils arrivaient là. Les films arrivaient là, mais parce que la ville était tellement éloignée, cette ville de Downson, les bobines arrivaient là-bas, mais n'en repartaient pas, finalement. Parce que les studios ne voulaient pas les récupérer, donc on les a laissés là-bas. Donc, les films restaient là, sur place, mais enfin, ils représentaient également un danger, parce qu'ils étaient hautement inflammables. Du coup, les gens les balançaient dans l'eau, ou ils brûlaient. Dans le fleuve. Mais il y a quand même une collection de films qui sont retrouvés au fond d'une ancienne piscine.
Alors,
l'idée, c'est qu'ils allaient se désintégrer peu à peu. Mais justement, pendant les travaux, on est tombé sur ces vieilles bobines.
Alors, cette histoire est d'autant plus parlante, Bill Morrison, c'est le cas de le dire, que 75% des premiers films, notamment des films muets, ont aujourd'hui disparu et retombé sur ces films. C'est à la fois retombé sur la mémoire documentaire de ce lieu, de Downson, de cette ville des pionniers, des chercheurs d'or, mais c'est aussi revenir sur l'histoire de la fiction du cinéma. C'est aussi des films de fiction que vous avez retrouvés dans cette terre gelée.
Ah, attendez, c'est pas moi qui les ai découverts. Hein. En 1978, j'étais trop jeune pour ça. Vous voyez dans quoi, effectivement, ils ont été découverts en 1978. Et ils ont été restaurés par la Bibliothèque du Congrès. Et les Archives nationales du Canada. Et c'est là, justement, que je suis tombé dessus. Il y avait quelques 533 bobines, je crois. Et sur ces 533, il y avait à peu près un tiers des films qui étaient en fait des films d'actualité, des documentaires, en quelque sorte. Et les autres, c'était effectivement de la fiction. Alors, mais ils ne parlaient pas de Downson ou du Yukon. Hein, c'était la vie quotidienne aux États-Unis à l'époque.
Le travail sur ces bobines, Bill Morrison, c'est à la fois un travail sur le fond et la forme, puisque les dégradations de ces bobines de nitrates, les défauts, les aspérités que l'on peut y retrouver, sont devenus une sorte d'esthétique pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez travaillé ce matériau-là? Vous avez mis bout à bout des extraits. Est-ce que c'est la technique du found footage que vous utilisez pour faire vos films?
Et moi, ce qui m'avait intéressé dans le projet dès le départ, c'est qu'effectivement, ces films étaient en état dégradé. Et donc, il y a une espèce d'esthétique à laquelle je suis attaché personnellement. Et en l'occurrence, il y avait quand même des histoires tout à fait remarquables qu'on découvrait à travers ces films. Et je savais qu'il y avait suffisamment de matériaux dans les histoires que l'on voyait et dans l'esthétique propre au film. Plus évidemment, l'aspect historique du film, il y avait de quoi déjà faire quelque chose. Quelquefois, ce qui m'intéresse, c'est effectivement l'état de dégradation de ces bobines. Mais quelquefois, ce qui m'avait marqué, bien entendu, c'était le contenu, c'était le fond. Par exemple, l'actualité, mais également les histoires dans les films de fiction, les œuvres de fiction.
Il
y avait beaucoup de histoires qui avaient disparu, qui avaient été préservées donc dans la Terre, mais que plus personne ne pouvait voir. Et d'ailleurs, justement, on se dit, si justement plus personne ne voit ces films, est-ce que cela vaut la peine de les restaurer?
Ce travail-là, c'est un travail aussi sur la mémoire du cinéma et la mémoire de cette ville. Cette ville, peut-être vous pouvez nous expliquer cet aspect, Bill Morrison. C'est une ville qui est comme hors du monde, puisqu'elle est relativement inatteignable encore aujourd'hui. C'est une toute petite ville. Et le monde a été découvert aussi par les habitants à travers le cinéma, les films qu'ils ont pu y voir, qui leur ont servi presque comme des journaux télévisés.
Oh, absolutely. I mean, in the Yukon...
Ah, tout à fait. Dans le Yukon, les gens qui vivent à l'extérieur de cette région sont presque sur une autre planète. Et comme vous le savez, les hivers sont très longs, très rigoureux dans cette région du monde. Et c'est la raison pour laquelle le cinéma a pris une telle importance dès le début de l'histoire du cinéma. Dans une ville de, je ne sais pas, 1000 habitants, il y avait déjà, je ne sais pas, 5 cinémas. Et chacun d'entre eux projetait plusieurs films par semaine, donc les films d'actualité, mais d'autres films également. Et donc effectivement, c'est un petit peu comme quelqu'un qui vivrait à la campagne et qui regarderait des centaines de films à la télé, je ne sais pas.
Bill Morrison, c'est comme si vous étiez vous-même rentré en conversation avec ces spectateurs d'une autre époque, puisque vous-même vous découvrez ce qu'ils aimaient, ce qu'ils regardaient. Il y a tout un passage, par exemple, consacré au sport, au baseball. Vous imaginez aussi ce qui était au centre de leur intérêt de l'époque. C'est une sorte de conversation imaginaire à travers le cinéma.
Yes, there was that component to it.
Tout à fait. Il y a cette dimension conversationnelle. Vous évoquez le sport. Alors le baseball, pour beaucoup de gens, c'est un sport particulièrement ennuyeux. Mais imaginez, il y avait un match de foot, par exemple, qui serait... Qui avait été truqué. Hein. Imaginez un grand match de foot, et on découvrait des années plus tard qu'il avait été truqué. Alors, le public à Dawson savait déjà, au moment de voir le match rediffusé au cinéma, savait que ce match avait été truqué, ce match de baseball. Et effectivement, je suis un petit peu entré dans leur tête, puisque je découvrais en quelque sorte, à travers leurs yeux, ce que eux, ils découvraient à l'époque. Il y a une chose tout à fait remarquable dans les films d'actualité, C'est la façon dont les anarchistes et l'anarchie, enfin les mouvements anarchistes, se développaient et faisaient l'actualité à l'époque. Alors, on pouvait en avoir peur un petit peu, mais il y avait également un regard un peu plus, disons, plus sympathique envers ce mouvement.
You would never see anarchy treated with such
et aujourd'hui, enfin, je ne sais pas, on ne présenterait pas les mouvements anarchistes de la même façon à la télévision, par exemple.
Bill Morrison, on a le sentiment que le film est aussi une sorte de course contre la mort de ces pellicules, dont le risque est qu'elles s'autodétruisent, alors parce qu'elles peuvent s'inflammer, il peut y avoir des combustions spontanées de nitrate, donc, qui peuvent aussi disparaître et emmener avec elles leur monde. C'est un travail que vous avez poursuivi sur plusieurs films, ce travail à la fois de restitution, de collage et de lutte contre le temps.
Well, yes,
mais oui, il y a eu d'autres projets où je me suis intéressé justement à ces bobines de nitrate, où le nitrate se dégrade et l'image se dégrade bien entendu. Alors il faut voir que l'autodestruction que vous évoquez est assez lente. C'est un phénomène d'oxydation, mais par contre, s'il y a une flamme, alors... il y a une autocombustion immédiate et là, on ne fait pas de quartier, ça disparaît instantanément. Et donc là, c'est la première fois où je me suis intéressé à la destruction, l'autocombustion de ces bobines. Ce qui est remarquable par rapport à cette collection, c'est qu'on voit que lorsqu'il y a une petite dégradation du nitrate, la dégradation de l'image, elle, est liée à l'eau, finalement, qui a réussi à s'infiltrer lorsque le nitrate s'est dégradé. Par contre, le nitrate lui-même s'est bien préservé, en général.
Je vous propose qu'on écoute le début de votre film, Downtown City, le tout début qui est le seul instant parlant du film, puisque vous avez restitué au muet le muet à travers simplement l'usage de carton et de la musique. Ici, c'est le tout début, on y entend Michael Getz qui raconte la découverte des bobines de Downtown en 78.
One day, a staff archaeologist from Winnipeg walked in and stopped me in the hall and he said,
un jour, un archéologue de Winnipeg m'a arrêté dans un couloir. Il m'a dit, j'étais justement chez Diamond Tooth Girlies, où on détruisait le centre de loisirs à l'arrière. Ils déterrent des trucs là-bas. Ça vaudrait la peine d'y aller. J'ai donc été sur place. Il y avait eu quelques perturbations à la surface. Il y avait d'étranges débris, dont du grillage, des pierres de curling cassées, des bouteilles, et il y avait des conteneurs en métal contenant des bobines de film. Il y avait aussi des pellicules éparpillées et des morceaux de pellicules emmêlés et exposés. La première question que je me suis posée était, est-ce le vieux stock de nitrate? Il y a un test simple pour le savoir. On coupait un petit morceau qu'on brûle avec une allumette. On peut voir la différence. Si c'est une bobine acétate, en l'allumant, elle s'enroule sur elle-même. Avec du nitrate, elle prend feu assez violemment. Ça s'est avéré être des pellicules nitrate. Je savais donc qu'on avait affaire à des très vieux films.
Alors Bill Morrison, pour nous resituer le début de ce film, lorsque les bobines sont retrouvées en 1978, c'est au moment de la construction à Dawson d'une sorte de centre de loisirs, c'est ça? Il y a eu l'histoire de ces bâtiments, d'ailleurs vous la racontez aussi dans le film, hein, l'histoire de la bibliothèque, l'histoire du centre sportif et de cinéma. Là en l'occurrence, c'est au moment de la construction d'un centre de loisirs que les bobines ont été déterrées.
Oui, c'est exact. Il faut voir qu'au début du siècle, il y a eu pas mal de constructions dans la ville de Dawson. Mais bon, peu à peu, la ville a commencé à péricliter. Parce que, en particulier, le marché de l'or s'est dégradé justement dans cette région.
They started excavating a
Donc on a commencé à creuser, je crois qu'en 1978, il y avait un ancien parking qu'on a détruit pour y construire ce centre de loisirs, en effet.
Alors,
ce centre de loisirs, moi j'aimerais bien être là lorsque ce centre sera construit, parce que sait-on jamais, on va peut-être découvrir d'autres archives.
Alors à la fois on voit que cette histoire du nitrate, elle est aussi très liée à ces risques d'incendie, de feu. Il y en a eu plusieurs dans l'histoire du cinéma, plusieurs destructions de bobines, mais aussi des incendies qui parfois ont fait des morts. Vous en parlez aussi dans le film. Et en parallèle de cette histoire du nitrate, vous racontez l'histoire de la bibliothèque de la D3A.
Oh, so the D3A, as it was called, was a sort of all-purpose.
Ce bâtiment, le D3A, c'était un centre polyvalent. Alors, il servait de salle de sport, mais également de salle de cinéma. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y avait justement une piscine et puis une patinoire. Donc ce bâtiment, le D3A, qui était le Dawson Amateur Association, ce bâtiment avait quand même une relation très particulière avec justement le film. Je vais vous expliquer. Dans ce bâtiment, il y avait une salle de cinéma. Et d'ailleurs, c'était là que les films étaient projetés, mais c'est là qu'on a trouvé les bobines. Mais dans le même bâtiment, il y avait une piscine. Et en hiver, cette piscine devenait une patinoire destinée au hockey sur glace. Et alors, il y avait un problème pour cette patinoire, c'est qu'il y avait donc en dessous l'eau de la piscine. Et il y avait des irrégularités sur la surface. Alors, en 1978, bon, c'est là qu'on a tout découvert. Il faut savoir que le cinéma lui-même avait été détruit dans un incendie, justement causé par le nitrate. Alors, cet incendie a signé la fin du bâtiment du D3A, mais la patinoire a quand même survécu. Mais tout le monde savait que les bobines étaient planquées là-dessous, et quelquefois on voyait des bouts de bobines qui remontaient à la surface.
Alors
les gamins s'amusaient à y mettre le feu.
Quand on raconte Bill Morrison l'histoire de Downtown City, vous faites aussi le portrait finalement de toute une époque avec les choix esthétiques de coller à cette époque-là. Vous avez conservé le muet, c'est un film intégralement muet, où vous avez décidé de donner de l'importance à la musique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces partis pris esthétiques?
Il y a une chose, moi ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir qu'effectivement la technique du cinéma a évolué au cours du siècle, bien entendu. Au départ, on a des photographies de la région. Alors c'était des négatifs sur verre à l'époque. Et puis vous avez les premiers films de l'époque Edison, donc au tout début du siècle. Les pellicules recouvertes de nitrate qui avaient été découvertes à Dawson. Il y avait des films amateurs qui dataient des années 30-40, toute une collection. Et alors là, ceux-là, c'était sur des pellicules de 16 mm.
The beautiful 35 millimeter film.
Il y avait des très beaux films sur 35 mm, alors là qui venaient des grands studios.
And then on into VHS.
Et puis ensuite on passe à la VHS et puis à la technique numérique. Donc il y a eu toute une évolution technologique du cinéma jusqu'à nos jours. Et donc dans mon projet, je fais une espèce de parcours de toutes les technologies qui se sont fait jour au cours du siècle. Alors, moi, cela a inspiré ma propre esthétique cinématographique, d'où le choix de musique plutôt que de paroles, de commentaires parlés. Je voulais que mon film soit justement un peu comme un film muet. Et la raison pour laquelle les gens se sont débarrassés de ces films, c'est que lorsque le cinéma parlant est apparu, le cinéma muet avait perdu tout son intérêt. Mais moi, justement, je voulais recréer cette nouvelle surprise, ce nouveau choc, en redécouvrant ces films muets avec toute leur puissance. Ces films qui réémergeaient et qui faisaient une espèce de déclaration au beau milieu du cinéma qui maintenant est parlant, bien entendu.
Bill Morrison, vous avez aussi choisi de retrouver votre liberté en tant que cinéaste, c'est-à-dire de détourner ces images, d'utiliser des images de fiction pour donner aux spectateurs des informations documentaires sur l'époque et vice-versa. C'est ce mélange-là avec aussi l'esthétique de la couche de froid et ce qu'elle a fait à la pellicule qui vous redonne la liberté qui est aussi dans le collage, dans le montage.
C'est vrai, c'était un projet de rêve parce que d'abord je disposais d'une telle quantité de matériaux pour commencer. Il faut voir que la ville de Dawson est une ville très particulière, assez jeune puisqu'elle n'a même pas un siècle. En fait, elle a été créée en 1898, donc elle a un peu plus de 100 ans.
But it was always been in love with itself.
Mais c'est une ville qui était toujours un petit peu éprise d'elle-même.
So for a town so small, it
Alors,
left
pour
a
une
very
ville,
good,
village aussi petit, cette ville a laissé quand même une trace importante de sa propre histoire.
And it was fun trying to find all
et moi, ce que j'ai trouvé sympa, c'était justement de découvrir ces petites traces ici et là qui ont construit, de l'histoire de cette ville qui s'est construite au fil des années.
Le jeu que vous avez, Bill Morrison, avec les rides de la pellicule, en quelque sorte, c'est finalement aussi un jeu avec les fantômes du passé, puisque c'était déjà le cas dans Decazia, où on voit un boxeur qui se bat avec une forme abîmée, on dirait presque qu'il se bat avec un fantôme. Est-ce que c'est pas un peu la même chose dans ces films-là? Les dégradations que l'on voit à l'image donnent une impression d'apparition fantomatique, comme ça, de spectre du cinéma qui plane sur ces films du passé.
Mais ce qui est remarquable par rapport au cinéma, contrairement à d'autres formes d'art, c'est que le cinéma vieillit un peu de la même façon que les êtres humains vieillissent. Parce qu'il est très difficile de parler d'une forme d'art qui, à l'exception des êtres humains, vieillissent de la même façon. Donc, lorsque vous parlez de fantômes, ce sont vraiment des fantômes qu'on voit en quelque sorte réapparaître, mais qui sont les témoins de cette époque. Et j'aime bien justement jouer avec cela, avec ces apparitions fantomatiques, parce que les films, justement, il leur a fallu tout ce temps pour prendre l'air un peu vieilli qu'ils ont aujourd'hui. Ce sont en quelque sorte de nouveaux fantômes.
Merci beaucoup, merci Bill Morrison et merci à Robert Wolfenstein d'avoir assuré la traduction. Je rappelle que votre film Dawson City, le ton suspendu, sort dans les salles en France demain, mercredi.
France Culture, la grande table d'été, par Maëlys Bessery.
Et c'est la musique du film Downtown City d'Alex Sommers qu'on entend. La grande table d'été continue en compagnie du réalisateur Claudio Pazienza, auteur d'Archipel Nitrate. Bonjour Claudio Pazienza.
Bonjour.
Alors on vient d'entendre un témoignage, un autre film de Nitrate. Vous-même, vous aviez travaillé sur ces vieilles pellicules de la Cinémathèque de Bruxelles. C'était il y a quelques années et l'idée était de faire un film avec des films.
L'idée était de faire un film à partir de fragments, d'images qui s'étaient incrustées dans ma mémoire. Et c'était une option que j'avais prise à l'occasion des 70 ans de la Cinémathèque, qui aujourd'hui s'appelle Cinémathèque, avec un K à la fin. Le parti pris est tout à fait d'un autre ordre, d'une autre nature que le film de Bill Morrison. C'est à la fois une relation très intimiste avec ces images, avec ce lieu aussi, qui a été un peu mon école de cinéma.
Un lieu que vous avez fréquenté presque quotidiennement. Vous le racontez dans le film, vous êtes un personnage en jeu.
Oui.
Alors pour le coup, pas muet, mais en voix off.
Oui.
Qui raconte aussi son histoire avec le cinéma.
Oui.
Et ses maîtres.
Ça a été pour moi un lieu essentiel, c'est-à-dire un peu comme je pense que pour beaucoup de personnes, la salle de cinéma est un lieu d'une façon de fréquenter le monde. Voilà. Alors ça a été une expérience assez incroyable qui a posé d'autres questions par la suite. Il s'agissait pas pour moi d'aller uniquement au cinéma pour découvrir les auteurs, le cinéma, etc. C'était une façon de voyager sans bouger, on peut dire, hein, en bougeant d'une autre manière.
La Cinémathèque, ce qu'on remarque aussi, Claudio Pazienza, c'est qu'elle est interne, au final. C'est une sorte d'accès à la Cinémathèque que vous avez en vous, à ces images conservées par le spectateur.
Mais on ne comprend jamais pourquoi une image s'incruste, non ? Et que de certains films, vous retenez certains détails, les choses, l'histoire, bien sûr, c'est très important. Et donc, c'est toujours un dialogue, je dirais, intime avec des objets. Et évidemment, inévitablement, ça sollicite des dimensions qui sont pas prévisibles. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai refait cette expérience avec ce film je me suis penché un peu comme Bill Morrison sur évidemment sur cette question du temps lié au temps de la technique, enfin du nitrate qui disparaît, de la relation au temps, de la relation à la mort, à la mémoire, d'une certaine façon.
D'un nitrate dangereux aussi, hein. Il y a cette idée comme ça, comme d'un cinéma dangereux.
Oui, mais c'est ce qu'il y a de magnifique. Moi, dans ce que Bill Morrison vient de dire et de ce que j'ai vu dans son film, il y a une image que je trouve extraordinaire. C'est des jeunes qui font du patinage sur glace sur une quantité invraisemblable de bobines frigorifiées. Physiquement, non ? Ils glissent sur cette mémoire, non ? Alors, c'est une image fabuleuse, parce que je trouve que c'est un peu ce que nous faisons en général, non ? Quand nous regardons, en revenant sur cette histoire du passé, la mémoire, etc., ça glisse tout le temps. Et on dessine des volutes, non ? On sait pas bien où ça nous amène, d'une certaine façon. C'est une expérience très intime, chaque fois, très étrange. Quand même, quand je repense à cette image-là, cette façon de cette danse, non, sur ces matériaux inflammables. Et vous parliez tout à l'heure de fantômes et de spectres. Le film, le cinéma est doublement explosif d'une certaine manière, parce que là, il est par sa composition, non, le nitrate avant d'être était un explosif, non, on l'a utilisé ensuite pour faire des images. C'est magnifique, non? Moi, je trouve ça hallucinant. Et puis, il y a cette relation au fantôme, non? À l'absence, au spectre, d'une certaine manière, non?
C'est d'ailleurs cette illusion-là que crée le cinéma, de rendre vivants des gens qui ne le sont plus, de nous les rendre visuellement vivants. Peut-être un mot sur la manière dont vous avez fait ce film, votre style à vous. Ce sont des films cousus, c'est-à-dire que... C'est une sorte d'association d'idées, d'une association à l'autre. On arrive sur une image et une pensée, et en suivant votre voix. Claudio Pazienza, c'est votre patte.
C'est une relation tout à fait libre. Voilà. Alors, si je dois faire une comparaison avec le film de Bill Morrison, la chose intrigante est qu'on peut voir dans le film de Bill Morrison, c'est l'utilisation de l'archive comme illustration, non, d'un propos, même si ici dans son film le propos il s'exprime par un texte qui apparaît sur l'image, non, muette et accompagné par la musique, comme vous disiez. Et donc vous avez une relation à l'archive qui est tout à fait linéaire. On vous raconte une histoire qui commence en 1800 avec le cinéma, si vous voulez, et les images viennent soutenir ce récit, même s'il est écrit là, à l'image que nous lisons et que nous découvrons. Il y a une fascination, etc. Clairement, c'est une façon d'utiliser l'archive qui est relativement, je dirais, classique. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons? Ça se déroule devant nous et nous sommes dans le présent de cette histoire. Alors nous sommes témoins, nous glissons, nous transposons et nous sommes contemporains de ce que nous voyons là. Et donc il y a quelque chose qui est du côté d'une relation à l'image qui est où l'archive apporte comme une sorte de sceau de vérité. Puisque je vous le montre, ça ne peut pas être faux. Vous voyez, donc on
ça
peut pas
être faux comme le cinéma quand même. Voilà, bien entendu, ça, on mais peut pas croire à l'image cinématographique tout le temps.
Bien sûr, mais il y a quand même cette idée que l'image, soi-disant, crée une forte illusion par l'analogie, le rapport que nous avons au monde, comme ça apporte une sorte de relation à ça. Or, dans l'expérience que moi j'ai fait, la relation aux images n'est pas du même type. Il y a absolument aucune relation au présent, c'est-à-dire les images apparaissent comme des éclats, ok, et je dialogue avec ces images. Et ça crée une toute autre relation au temps, ça crée des poches, des volutes, voilà. Et donc, c'est une autre façon, travailler avec l'archive, c'est-à-dire de mettre l'archive un peu au travail, non, de rentrer en tension avec ça, de rentrer un peu en tension et de créer autre chose, une autre relation. Et
y compris la relation corporelle. Vous faites l'expérience du siège du spectateur à la cinémathèque, vous le filmez, le corps il est mis en scène. Peut-être on peut écouter un petit extrait, le début d'Archipel Nitrate, pour qu'on comprenne cette voix off qui s'installe.
Il est des planètes silencieuses. Des planètes dont la durée de vie se calcule en secondes. Il est des quadrupèdes légendaires et des images dont la durée de vie est aléatoire. Combien ça dure? Je veux dire combien dure cette soudure entre les cristaux de sel, le nitrate, et cette surface souple et perforée. Combien dure une image?
Claudio Pazienza, quand on entend ce début, on se demande si la quête est une quête contre la mort ou si elle est morbide. C'est un peu peut-être les deux, hein. Il y a un rapport à ce qui peut-être va s'éteindre et au fond, pourquoi pas, avec peut-être une apologie de ce qu'a pu être l'art éphémère aussi, d'une certaine manière. Et de l'autre côté, cette volonté de maintenir l'histoire et la mémoire cinématographique.
Une de mes idées, une des réflexions était au fond, est-ce que anthropologiquement, cette expérience que nous faisons n'est pas également fascinante parce que nous avons, enfin, on a inventé une technique, hein, qui consiste à réinjecter de la vie dans l'inerte. C'est-à-dire que nous savons très bien que ce que nous voyons n'est pas là, et en même temps, nous faisons l'expérience de cette rencontre nouvelle, non ? Alors, bien sûr, on peut dire que c'est le cinéma, c'est la mort à l'œuvre, tout ça, ça l'est, hein, bien entendu. Mais dans le film, ici, il y a aussi une fascination, je dirais, pour, oui, qu'on le veuille ou pas, le cinéma aussi un art funèbre. Il n'y a rien à faire. Il y a cette fascination pour ça, non? Il y a cette fascination pour ça. Et un peu comme dans le film de Bill Morrison, cette fascination se traduit aussi par des formes, par des disparitions, par l'image qui frise l'abstraction. On est vraiment dans une toute autre dimension. On est face à cette menace constante où l'image est grignotée par le blanc. Enfin, c'est-à-dire quelque chose qui à un moment disparaît, non, sous nos yeux. Hein. C'est cette idée-là. Donc, ces relations au temps et évidemment quelque chose en relation à la mort.
Et en même temps, c'est l'inverse, c'est aussi le passé restitué dans sa pleine présence.
C'est un peu ça, mais je pense à cette phrase d'un philosophe allemand, Feuerbach, qui dit quelque part, tout ce qui a été vécu s'est éloigné dans la représentation. Tout ce qui a été vécu s'est éloigné dans la représentation, c'est-à-dire quelque chose qui au fond, comment dire, au moment où elle se frigorifie, hein, perd, hein, inévitablement. Et nous, notre travail dans la relation au cinéma, au support, c'est d'aller rattraper quelque chose de cet ordre-là, aller réveiller le fantôme, aller le ressolliciter, et au fond, je dirais que s'il y a pour moi un intérêt de dialoguer avec les morts, c'est pour mieux parler des vivants, d'une certaine façon, on peut dire ça.
Alors, il y a des miracles qui se créent grâce à cette technique aussi. Vous ramenez à vous le cinéma italien, le voleur de bicyclette, Vittorio De Sica, mais aussi Truffaut et aussi Louis Malle. Donc, il y a cette idée de pouvoir, au fond, ramener avec soi tout ce qui a été enregistré et ne pas faire un film ex nihilo. Claudio Pazienza, c'est aussi cette quête-là que l'on voit dans Archipel Nitrate.
Il y a un peu cette idée-là. Il y a un peu également l'idée de rendre hommage à certaines figures du cinéma. Il y a cette relation à certains personnages, Antoine Doinel. Il y a une déclaration d'amour pour ces auteurs. Je ne suis pas un grand fan de Vittorio De Sica, mais bien sûr, il y a certaines figures qui, pour moi, qu'on le veuille ou pas, restent incontournables. C'est pour moi surtout un hommage à une figure incroyable qui a été Jacques Ledoux, qui était le conservateur de cette cinémathèque pendant très 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 longtemps. Il y a une chose très intrigante dans le film de Bill Morrison, et c'est cette idée que au moment où arrive le parlant, il faut se débarrasser parce qu'il n'y a pas la place pour entreposer toutes ces centaines de bobines qu'on jette au fleuve, comme un truc hallucinant.
C'était l'idée des personnages qui ont jeté les bobines.
C'est une chose assez hallucinante. Et il y a une chose extrêmement intrigante, c'est que ces bobines, dans le film de Bill Morrison, et c'est raconté de manière assez claire, se stockent, si vous voulez. Les responsables de ça, c'est les banquiers qui tiennent ça. C'est eux qui sont censés ne pas faire reprojeter parce qu'il n'y a plus les droits, etc., etc. Et eux, ils s'en débarrassent. Non. Bon, qu'est-ce qui se passe en Europe ? je ne sais pas, probablement la même chose aux États-Unis, la valeur muséale des films.
Le côté patrimonial, justement.
Oui, patrimonial, bravo. Bizarrement, vient très tard, fin des années 20, début des années 30. C'est là qu'on se dit, on est en train de se passer, de détruire ou d'essayer de ne pas récupérer pour diverses raisons, le cinéma, art populaire, etc., etc. Et qui s'intéresse à ça, à la conservation, c'est pas des banquiers, c'est des cinéphiles, c'est des cinéastes.
Alors les cinéastes sont les conservateurs de leur propre art.
Mais c'est eux qui se rendent compte que il faut à tout prix préserver quelque chose qui est une trace, pas que du cinéma, mais de tout ce que ça a représenté jusque-là. Et c'est également extrêmement, moi je trouve, fascinant de voir que ce geste de conservation se produit en Europe à un moment bien précis de l'histoire. J'ai fait cette association aujourd'hui. Explosion des nationalismes, non ? Années 20, années 30. Qui s'occupe ? Qui va essayer de retenir, non ? De soustraire à la disparition, à la mort, etc. En France, c'est Franju, immense cinéaste. Langlois viendra également. En Belgique, Ledoux viendra plus tard, mais c'est des cinéphiles qui organisaient des projections au Palais des Beaux-Arts. Puis c'est Henri Storck, hein, c'est ça. C'est les fondateurs de la cinéphilie. C'est eux qui, à un moment, c'est pas les banquiers. C'est pas les banquiers. Hein. Alors, est-ce que je leur en veux ? Je dirais pas évidemment ça. Donc, pour revenir à votre question initiale, c'est également un hommage assez pionnier qui, à un moment, se disent il y a quelque chose qui est fondamental, qui n'est pas uniquement le fait de préserver, si vous voulez, pour des raisons patrimoniales, comme vous disiez là, c'est que ce sont des traces de langue, de gestes, c'est de l'anthropologie, il y a quelque chose à retirer de là.
Alors, vous allez écouter justement sur ce sujet Jean-Luc Godard, qui était sur France Culture en avril 2019.
C'est dommage, les DVD vont disparaître. Petit à petit, il n'y a plus qu'Amazon qui les fait, ce qui est un désastre qu'on doive les acheter sur Amazon. Mais l'histoire du cinéma aussi s'arrêtera, parce que ça sera juste avec des... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Avec des... Par une clé ou... Et c'est tout. C'est-à-dire, vous pouvez avoir accès à tel ou tel film, mais vous ne pouvez pas avoir accès, comme il y a encore chez Amazon, 600 films. Donc, l'archéologie que je fais ne pourra plus se faire.
Et vous gardez tout ?
Non.
Mais alors, j'arrive plus, moi, à savoir la différence entre l'archiviste et l'archéologue.
Ben, l'archéologue, disons, comme on dit aujourd'hui, c'est plus noble. L'archiviste, il classe et c'est tout, tandis que l'archéologue, il cherche, il sculpte l'histoire, comme Michel-Ange ou Camille Claudel sculpte et cherche. Parce qu'on dit souvent, chez les grands sculpteurs, à mon avis, il n'y a pas de scénario. Ils attaquent le marbre et il y a un côté alpiniste aussi.
Claudio Pozienza, qu'est-ce que vous en pensez de ce que vient de dire Jean-Luc Godard ?
Mais heureusement qu'il y a encore Jean-Luc Godard pour nous amener ailleurs que là où on pense qu'on doit être. Enfin, je ça m'émeut de l'entendre parce que qu'est-ce qu'on fait quand on regarde, quand on l'écoute ou quand on est en relation à ça, à ces questions de fragments d'éclat, d'archives. On fait deux choses. Moi, dans mon film, Bill Morrison dans le sien, on cherche désespérément à les faire exister en leur créant des relations. Hein, un récit, d'une certaine manière. On fait du montage. On cherche du sens. On les sollicite et pour les préserver d'une certaine manière et pour les faire et pour leur réinjecter quelque chose qui s'étiole, hein, clairement, bien sûr, il y a ça. Mais nous faisons une opération essentielle. Hein, nous efforçons de trouver une forme, un langage, une façon de... Et s'il y a quelque chose qui, moi, me fascine toujours et encore chez Godard, c'est cette quête limite inlassable. Non, c'est hallucinant, enfin, c'est intimidant, enfin, il n'y a rien à dire. Cette nécessité, qu'on le veuille ou pas, de la parole. Un fragment de film, une trace, une archive, si elle ne rencontre pas ce désir profond, un moment, de quelqu'un, non, qui va faire cet effort hallucinant, lexical, non, de leur inventer une forme, ça se autodétruit, ça disparaît, hein, et c'est ce qu'il fait là, hein, c'est ce qu'il fait là.
Mais la matière vivante, c'est la matière poétique, finalement, la mise en relation poétique des images.
Que voulez-vous comprendre du monde si on n'arrive pas quelque part à inventer une parole, si vous voulez, dans ce chaos hallucinant et qui à un moment nous donne accès à une séquence, à un fragment de sens d'une certaine manière.
Non, même si ce sens-là aussi peut être chaotique.
Oui, bien sûr, il peut être chaotique.
Je vous propose d'écouter un autre extrait qui en soi est chaotique.
Ce matin, un message dans ma boîte. L'ami me disait, tiens, ça c'est pour toi. Et là, devant moi, il y avait une chose étrange. Puis j'ai lu, à droite et à gauche, et j'ai découvert que c'était la découpe d'un cerveau, une ramification de neurones qu'un scientifique du 19e avait rendu visible grâce au nitrate d'argent. Et de manière presque mécanique, j'ai pensé à ce film où un personnage, habité par des démons, s'agite de bout en bout. Et puis, il finissait dans un cabinet de médecin. Et là, on voyait pour la première fois ce qui d'habitude n'est pas visible à l'œil nu et que le nitrate autorise. Puis l'histoire se terminait assez bien. Le film s'appelait d'ailleurs « Une araignée dans le cerveau ».
Cette métaphore du cerveau, Claudio Pazienza, c'est aussi ce qu'est le montage d'une certaine manière, hein, c'est-à-dire que dans les choix d'archives, de bobines, etc., on va avoir à l'intérieur de ces choix, dans le nitrate, accès à l'imaginaire du cinéaste, du monteur et de celui qui décide de les mettre en relation. Ça nous apprend plus sur le monteur que sur l'histoire, peut-être même, du cinéma.
Il y a aussi une partie qui est moindre, mais qui est quand même liée à l'histoire de ce support en nitrate et de la cinémathèque. Oui, il y a quelque chose autour de la notion de montage. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer des relations, nouer des relations, nécessairement. Hein, je dirais même, qu'est-ce qu'un film, hein? C'est, au fond, à la base, c'est nouer des relations entre deux images, deux plans. Hein? Ça vient très tard dans l'histoire du cinéma, enfin très tard, 20 ans après l'invention on comprend la syntaxe, on la met au point, tout ça. Ça vient avec Griffith, 1915-17, là c'est clair. Donc cette chose-là, elle est centrale. Créer des relations, créer du sens, monter.
Merci Claudio Pazienza d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle qu'un coffret existe, Claudio Pazienza, Fragment d'une œuvre, qui réunit 5 de vos films en DVD. Merci. Tout de suite, la fiction imagine le monde de demain de France Culture avec la SACD et en partenariat avec le Théâtre de la Ville en soutien à la création et aux auteurs. Aujourd'hui, Le Poule de Gaspard Chauvelot.
Chante-moi une autre chanson. Une fiction écrite par Sophie Filière.
Mon pompon. Ah bah comme tu veux. Oui, et surtout, te retourne pas. Ah, c'est ça. Avachis-toi. Locke.
Camembert.
Camembert. Vraiment. C'est tout. Camembert, quoi.
Le fait qu'on se soit pas vu depuis plus de 7 semaines n'exclut pas que tu veuilles pas 0h27 partager du camembert avec moi. Si?
Si, un peu. Tu dors avec ta montre maintenant? Tu l'enlevais toujours?
Insomnie oblige. Fringale nocturne aussi. Donc non, je range. Bon.
T'as tort, c'est du genre.
T'as pas de sac? Pas de valise?
Je suis pas sûre de revenir.
Là? T'es là quand même. Ça sent le chien, non? Hein, toi qui viens du dehors?
T'as arrêté d'aérer? Faut continuer, tu sais. Faudra continuer. Pour toujours.
Ah, continuer pour toujours, ouais. Viens. Viens. Tu retires pas ton masque? Comment être sûr que c'est toi?
Même moi, je suis pas tout à fait certaine, Joris. Extérieurement, si. Si, de fait.
Ah. Ta grande obsession, suis-je bien moi? Sommes-nous qui nous sommes? Enlève ton masque. Je te regarde et je me dis, ce sont bien ses yeux. Et pas en amande, comme tu t'obstines à le croire, mais en noyau de pêche. Ourlé et piqueté.
Ourlé et piqueté.
Moucheté, si tu préfères. Et je les aime.
Ça, c'est mon chien, ça. Ça, c'est mon chien. Il te reconnaît pas avec ton masque. Naturellement, il vient vers moi.
S'il te plaît, laisse-moi te voir, Diane.
J'ai besoin de me reposer. Je suis partie trop tard et j'aime pas conduire de nuit. Je vois rien, je suis éblouie par les phares, je me concentre sur les bordures blanches, ça me fatigue. Enfin, tu sais tout ça. T'as inversé la table et le canapé?
Je sais pas, j'avais envie de changement, de marquer le coup de cette nouvelle ère.
Et ça te suffit d'inverser les meubles? Moi aussi, j'ai envie de changement, Joris. Recule, t'es pas un maître.
Mais je l'ai pas eu, je l'ai pas. Je suis négatif. Oh, combien négatif, je sais.
Mais recule-toi, je te dis. T'es peut-être asymptomatique. Ou moi. Je suis moulue.
C'est pas Nessim qui conduisait?
Nessim? Pourquoi Nessim? On repart sur Nessim, là? C'est ça que tu veux? C'est ça que t'attendais? Alors toi, en slip dans le salon, 7 semaines plus tard, la laine chargée de camembert, crachant du Nessim.
T'étais pas confiné avec lui, peut-être? Ça va? Il a aimé Saint-Hilaire qui sont la Valmite? Vous avez pris notre chambre ou le clic-clac? Il est bon à marier? Il sait faire un feu? Et vous savez bien que c'est la Valmite? Retire ton masque, hein, tu respireras mieux. Et ferme cette fenêtre, Icaille.
Arrête de me chanter cette chanson.
De quoi tu parles? Quelle chanson?
Je sais pas. La chanson Nessim. La chanson grinçante, le masque et tes sarcasmes. J'étais seule. Enfin, si tu exclus Odette.
J'ai eu peur pour elle. J'étais sûre qu'elle y passerait.
Non, elle tient bon. C'est une vieille carne. Et moi ?
Oh, c'est toi. Je te reconnais.
Tu me trouves pas trop vieille, Karn, moi aussi ? Dis-moi que tu trouves que je suis encore une jeune Karn.
Super Karn, super jeune. Tu t'es jamais préoccupé de ça, qu'est-ce qui se passe ?
Qu'est-ce qui se passe ? Ça te suffit pas ce qui se passe ? On sait plus si on a le temps, ou l'envie, ou la force.
Tu parles de faire des bébés ?
Non. Je parlais pas de faire des bébés, non, Joris ? Et si j'en parlais, comment te dire, j'en parlerais pas comme ça. Faire des bébés. On n'a pas 7 ans, Joris. On n'est pas dans le préau, en CE1. Il n'y a pas une maîtresse qui va venir nous donner un goûter et nous dire d'aller...
D'aller où ?
D'aller jouer à la balle aux prisonniers.
Ouais. Et c'est dommage, non ? Et comment je devrais dire ? Faire un enfant.
Tu m'en parles, là ? Vraiment ? Ou tu soulèves une question de vocabulaire ?
Non, je soulève une question de vocabulaire.
Viens, Pompon. Viens. Viens avec moi. Attends. Attends, Pompon, non. Non, Pompon !
Hé, hey, ça va, on l'attrape pas des animaux. Hein.
On n'en sait rien.
Hé, hey, chut, chut, chut. Écoute.
Quoi ? Chut, Pompon.
Tu entends ? Turdus merulus.
Merle noir, quoi. Ça va, fais pas ton savant. Hein. Attends, il est si tard, là. Enfin, si tôt.
Ah ouais, je t'aurais quand même appris 2 ou 3 choses. Le merle noir, ouais. La nuit, parfois, il chante pour rappeler le matin. Viens. Viens, le canapé. Non, pas le canapé, bonbon. Chut. J'ai froid, colle-toi, moi.
Non. Prends plutôt mon manteau. Tiens.
J'aurais tout essayé. Et toi aussi, tu pourrais me chanter autre chose. Hein. Mais non, tu te drapes dans ta raideur de toujours, tu réponds le froid, un froid sibérien. Ah tiens, ils sont 2 maintenant. Ah, je nous ai acheté des vélos, des Van Moff. J'en ai pris un pour toi, je me suis dit, ça va la faire revenir.
Van Moff. C'est drôle.
Je sais pas si c'est drôle, mais... C'est hollandais. Ça, c'est du vélo.
On va se les faire voler.
Bah, on en rachètera.
Avec quel argent ? T'as dû craquer le LDD ?
Bah, je demanderai à mon frère. Ça, je peux lui demander. Tu reviens, alors ? On va se les faire voler, t'as dit, donc... tu reviens. Tu reviens.
Pompon ? Non, tu m'intéresses pas. Il m'intéresse pas, ce chien. Oh non, il est beau, ce chien, mais il m'intéresse pas. Non, 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 non. Tu refumes pas, à tout hasard ?
Si, 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 attends. J'en ai dans la cuisine.
Non, je te lancerai pas la balle. Quoi, je me lave les mains après. Tu comprends ça, Pompon ? Il n'y aura plus de balles. Fini, ça. Fini. Tu comprends, fini ? Je trouve que Pompon parle moins bien qu'avant, tu trouves pas ? T'es marrant tout nu sous mon manteau. Oh, j'ai pas arrêté de tripoter mon masque. Il est bon pour la poubelle.
Tiens. T'as repris aussi ?
Oh, pas pour longtemps, je...
Ouais, ouais, moi non plus.
Nom de Dieu, c'est bon. Alors, tu me trouves froide. Tu vois, toi aussi, tu voudrais que je change. À commencer par quoi ?
Ton manteau. La prochaine fois, prends une taille au-dessus.
T'as qu'à aller t'habiller, hein. Puis la prochaine fois... Dans quelle boutique ? Moi, j'aime bien essayer.
Essaye-moi, plutôt. Ben vas-y, essaye-moi.
Non, qu'est-ce que tu fais ? Mais arrête ! Tu vas m'embrasser, là, tu crois ? Recule, recule ! Sérieusement, qu'est-ce qu'il va falloir que je change?
Pas tout. Pas ta superbe. J'aime bien ta superbe. Ouais, tes yeux mouchetés et ta superbe.
Mais ma froideur me sert pour ma superbe. Non mais merci, je le prends bien. T'as vu, on les entend tous là.
Quoi?
Tes oiseaux. Il y en a plus qu'avant, t'as remarqué? À Cusson, je me rendais pas compte, c'était la campagne. Il y en a toujours eu. On devrait mettre une petite maison pour eux, là, sur la rambarde. Tu sais, avec...
Va voir. Va voir, j'en ai mis une. Approche doucement, hein. Ils vont s'enfuir sinon.
J'avais pas vu. Il y en a quatre là qui volaient autour. T'as mis des graines?
Ouais, et du grain que j'ai fait durcir au frigidaire. J'avais l'impression de faire quelque chose pour toi tout ce temps.
Mais je ne suis pas un oiseau.
Je sais, Diane. Je sais. Regarde, Pompon s'est endormi.
Il a lâché l'affaire.
Et toi? Tu lâches l'affaire ou tu relèves le défi?
Quel défi?
Oui, de cette vie qui vient, de l'inquiétude, de la peur et de, je sais pas, du savon. Encore le savon, toujours le savon, le putain de savon. Enfin, si c'était que ça. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça?
C'est Odette.
Quoi, Odette? Je comprends pas.
Elle m'a donné du savon pour toi. Elle le fabrique elle-même avec ses rogatons.
Ça fait envie. Mais elle le lave, son savon, après, au moins.
Je vois que tu te laisses pas abattre, t'es en verve. Tu donneras ça à ton Jojo. Jojo, elle m'a dit.
Et je le suis. Je le suis encore, ton Jojo.
Oh, non, pitié, pas Jojo. Déjà que Joris... Tu t'es pas acheté un prénom avec les vélos? Non? Un nouveau prénom pour le nouveau monde? Un prénom de type qui roule à vélo, qui se lave les mains, qui télétravaille et qui voudrait malgré tout ça... Enfin... faire des bébés? Ou juste un?
Appelle-moi comme tu veux.
Oui, parce que, excuse-moi, mais Joris, ça fait météorologue.
Tu crois que t'es mieux loti avec Diane?
Oui.
Bah non. Diane, c'est hiératique et irréprochable. Je suis contre. Tu n'es pas ça.
Toi aussi, appelle-moi comme tu veux. T'es en train de te rapprocher dangereusement.
Ouais.
Là, tu me prends la main, on dirait.
Et toi, tu la laisses. Tu l'abandonnes à la mienne. Je considère que t'es revenue, ma chinette.
Je suis revenue, machin chose.
Chante-moi une autre chanson, de Sophie Filière. Réalisation, Laure Egoroff. Le générique complet est à retrouver sur franceculture.fr.
Vous retrouverez un prochain épisode de Fiction Imagine demain. C'est l'heure de la chronique de François Sureau, La Seine et nos amours.
Nous sommes ici au kilomètre 270 à partir de Source-Seine, au 202 boulevard Saint-Germain à Paris, dans le 7e arrondissement, et je dois vous dire que s'il n'avait tenu qu'à moi, j'aurais tout numéroté à partir d'ici. Le kilomètre zéro, c'est le 202, boulevard Saint-Germain, là où est mort l'homme de ma vie, Guillaume Apollinaire. Il a été blessé en 1916 au Bois des Buttes, il commandait une compagnie d'infanterie. On imagine souvent que Apollinaire a été une sorte de soldat de base de la Première Guerre mondiale, une sorte de victime. Eh bien pas du tout, le sous-lieutenant Wilhelm Apollinaris de Krotzrowiski commandait une compagnie d'infanterie. C'est un des commandements les plus lourds et les plus exposés de la guerre. Il commandait 130 hommes. Ces hommes l'adoraient. Ils n'arrivaient pas à prononcer son nom. Ils l'appelaient Cointreau-Whisky. Il était toujours en première ligne, toujours courageux. Il lisait, il écrivait. Il avait été décoré de la Croix de guerre. Et en 1916, alors qu'il lit un numéro du Mercure de France, un éclat d'obus dans le cadre d'un bombardement tombe, lui perfore le casque. Continue à lire et ça n'est que quelques temps après qu'il s'apercevra qu'il est grièvement blessé. On lui enlève l'éclat d'obus. Cette opération provoque une sorte de compression du cerveau par le sang. On est obligé de le trépaner. On introduisit un forêt de menuisier pour découper le crâne et retirer le sang supplémentaire. Une opération extrêmement lourde et douloureuse qui le transformera. Après laquelle, d'ailleurs, il rompra avec sa fiancée Madeleine Pagès. Il rentre à Paris. Il est inexact de dire qu'il n'est que l'ombre de lui-même. Il continue à avoir cet appétit incroyable de la vie, du mouvement moderne, du cubisme, de l'orphisme qu'il avait toujours manifesté. Et puis, il devient français. C'est une chose qu'il avait toujours voulu être. Apollinaire a toujours souffert de sa condition de métèque. Il était le fils naturel d'une jeune aristocrate polonaise qui a fini plus ou moins sa vie ensuite comme courtisane, qui s'appelait Angelika Olga, et d'un officier italien qui ne l'a pas reconnu et qui est parti. On a souvent dit d'ailleurs qu'il était fils d'évêque parce qu'il avait des manières un peu onctueuses et qui ressemblait à un évêque. Et cette condition l'a poursuivi toute sa vie. Il a voulu devenir français. Il a espéré devenir français. Il en a attendu énormément de choses. Quand il a été emprisonné à la Santé en 1911, parce qu'on l'accusait d'avoir participé au vol de la Joconde par un escroc qui s'appelait Géry Pierret et un ouvrier italien qui d'ailleurs l'avait volé pour le rendre à son pays d'origine. Quand il a été incarcéré à la Santé en 1911, beaucoup d'articles ont paru dans les journaux où il y avait, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, les juges d'instruction qui laissaient filtrer un certain nombre de choses plus ou moins agréables pour lui, et notamment le fait qu'il n'était le fils de personne et qu'il était à peine français. À l'époque d'ailleurs, la préfecture de police a envisagé tout simplement de l'expulser de France, alors qu'aucune charge n'avait été relevée contre lui. C'est une blessure qu'il a conservée toute sa vie. Il a voulu devenir français, il a même voulu être élu à l'Académie française. Et en 1917, après une convalescence difficile, après la pneumonie, après la bronchite, il est enfin nommé lieutenant. Il a son képi à deux galons, il a la Légion d'honneur, il a la Croix de guerre, et il reçoit enfin son brevet de naturalisation, et il se marie avec celle qu'on a appelée la Jolie Rousse, à laquelle il a dédié des poèmes, et qui s'appelait Jacqueline Kolb. Il se marie, mais il désoriente encore tout le monde. Et ce qui est quelque chose de merveilleux chez Apollinaire, c'est que cet homme qui avait tant voulu devenir français et qui reste aujourd'hui pour nous le symbole même de la poésie française, cet homme, en fait, a désorienté les esprits de son temps. Il défendait les mouvements modernes, il défendait toutes les avant-gardes, il était l'ami de Picasso et de Derain, il avait soutenu Braque, il était un admirateur de Matisse. Et en même temps, il était le soldat amoureux de la douce France, il était celui qui saluait le drapeau, il était celui qui aimait Georges Clémenceau. Et en même temps, il était celui qui faisait représenter les mamelles de Tirésias, qui est le grand drame féministo-comique de l'époque, où une femme oblige son mari à procréer parce qu'il est injuste que ce soit les femmes qui subissent cette charge et non pas les hommes. Au fond, Apollinaire, qui avait tant voulu être français, n'était pas totalement français en ceci qu'il avait une conception non pas binaire, comme nous avons le bien, le mal, le passé et l'avenir, la gauche et la droite, mais une conception absolument polyédrique du monde. Il cherchait par là une sorte d'harmonie universelle. Il cherchait une sorte de sentiment océanique. Et il a cherché toute sa vie cette issue, avec un côté mystique dont témoigne Zone, dont témoigne ce vers sur la croix, double potence de l'honneur et de l'éternité. Et de l'autre côté, ce goût pour la pornographie, les formidables 11 000 verges, ce goût de l'amour charnel qu'il a manifesté toute sa vie jusqu'à la fin. Il se marie donc en mai 1918 et juste après, il est affaibli par cette épidémie incroyable de grippe espagnole qui a fait plusieurs dizaines de millions de morts, surtout en Asie d'ailleurs, et 200 ou 300 000 morts en France et des morts sans nombre en Angleterre, et qui a fait plus de morts que le premier conflit mondial. Il écrit un article dans le Mercure de France qui annonce que c'est la fin de l'épidémie. Il commence à être affaibli, il sent qu'il a de la fièvre, cette épidémie ressemblait beaucoup à l'épidémie que nous connaissons aujourd'hui. Il déjeune avec Blaise Cendrars, le légionnaire, amputé du bras gauche après l'assaut de la ferme Navarin, et après ce déjeuner, il rentre se coucher et il mourra. Dans la soirée du 9 novembre 1918, entouré par Cocteau et par Max Jacob. Au moment où il meurt, et c'est un moment absolument tragique, Ungaretti d'abord, qui était son ami, puis Picasso, viennent le voir. Il monte dans cette espèce de petit appartement du dernier étage, là, qui est juste devant nous, et sur la porte duquel André Breton avait vu « On est prié de ne pas emmerder le monde », qui est le carton qu'Apollinaire écrivait quand il voulait rester tranquille. « Il est là, il est amaigri, il a l'air très jeune », dira Picasso. « Il est couché sur son lit avec son uniforme bleu, sa croix de guerre et sa légion d'honneur qui lui ont été épinglées par une de ses amies, qui était une femme exceptionnelle, qui s'appelait Louise Faure-Favier, qui a été la première journaliste professionnelle en France et qui a été une pionnière de l'aviation. » Et au moment où Picasso, Ungaretti d'abord et Picasso ensuite, se recueillent devant son corps, monte dans la rue, parce que c'est l'annonce de l'armistice, les cris d'une foule qui défile sur le boulevard en hurlant « À mort Guillaume, à mort Guillaume, à mort !» En fait, c'est du Kaiser Guillaume, naturellement, qu'il parle, et Picasso se met à pleurer en entendant ces cris, pour lui, absolument insupportables. Vers le milieu de l'épidémie du Covid-19, alors que tout le monde était confiné, j'étais en train de travailler sur Apollinaire, et puis je suis tombé sur une du Parisien. Et cette une m'a beaucoup ému, parce que il y avait simplement écrit qu'Apollinaire était mort de la grippe espagnole, une grippe qui se comparait beaucoup à celle de l'épidémie actuelle, à celle du Covid, qu'il était mort de la grippe espagnole. Et la phrase de Chapeau était « Le 9 novembre 1918 est mort l'un des plus grands poètes français ». Et j'ai pensé qu'Apollinaire avait vécu toute sa vie pour cette phrase, l'un des plus grands poètes français. Je crois qu'Apollinaire avait rêvé toute sa vie de voir cette simple phrase imprimée dans un journal au moment où il écrivait les vers de Vitam impendere amori qui sont parmi les derniers qu'il ait écrit. La vitre du cadre est brisée, un air qu'on ne peut définir, hésite entre son et pensée, entre avenir et souvenir.
On se retrouve demain pour une nouvelle grande table d'été consacrée à l'initiation féminine. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Shushan Jergaillon, Lou Quevauvillier, Marianne Chassor, Judith Kravitch et Mathieu Bellini. À la réalisation Lise Com, à la technique Marie-Claire Oumabadi. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Vive la vie. Rite de fertilité, berceuse punk, enfant prodige, icône juvénile, chant du cygne, requiem ou marche funèbre en fanfare, de la naissance à l'au-delà, toutes les étapes de l'existence ont leur mélodie. Entre poésie musicale et stéréotypes de l'industrie du disque, exploration de la discothèque des âges de la vie, La fleur de l'âge, une série musicale de Natacha Triou et Véronique Lamandour, cette semaine à 15h sur France Culture et sur franceculture.fr. La Seine est une amante et Paris dort dans son lit. De sa source jusqu'au Havre, la Seine sillonne dans l'imaginaire de l'avocat François Sureau, ardent défenseur des libertés, amoureux d'un fleuve.
Nous sommes ici au cul de la place du Panthéon, au kilomètre 252 de notre périple en remontant la Seine devant l'église de Saint-Étienne-du-Mont.
Comment raconter ces 518 kilomètres, ces boucles, ces méandres, les générations qui l'ont façonné, les artistes qui l'ont fréquenté, Pascal, Gauguin, Simenon. La Seine et nos amours par François Sureau, du lundi au vendredi à 7h12 dans les matins de France Culture et sur franceculture.fr.